Bonsoir. Nomination la semaine dernière par le chef de l'État des nouveaux mandataires à la tête des entreprises de l'État. Il s'agit de la Société congolaise de transport et des ports, ex-ONATRA, de l'OCC, de la SOCIR, de Congo Airways et de la Société congolaise de ports et télécommunications, ex-OCPT. Ces nominations interviennent au moment où ces entreprises connaissent des difficultés dans leur fonctionnement. Quelle lecture faire de ces nominations? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 30 mars 2015. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Franklin Tshamala, communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Tshamala, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir, merci beaucoup.
Mutombo Sonsola, membre de la direction politique du Congrès des démocrates pour le progrès social, CDPS, en sigle, parti politique de l'opposition. Monsieur Mutombo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, journaliste et analyste politique et économique. Bonsoir Israël.
Bonsoir.
Merci de nous suivre, partenaire RDC, sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit, le chef de l'État a nommé jeudi dernier des nouveaux mandataires à la tête des entreprises de l'État. Il s'agit de la Société congolaise de transport et ports, ex-ONATRA, l'Office congolais de transport OCC, la SOCIR, Congo Airways et la Société congolaise des ports et télécommunications, ex-OCPT. Mais dans quelles conditions ces mandataires trouvent-ils leurs entreprises? Élément des réponses avec vous, Berry Lotchaka.
Les nominations sont telles qu'à la Société commerciale des ports et des transports ex-ONATRA, c'est l'ingénieur Kimbembe Mazunga qui prend le poste de directeur général. La Société congolaise des postes et télécommunications ex-OCPT de son côté sera dirigée par Didier Mousseti. À Congo Airways, c'est Louise Mayou Makassende qui est nommée comme administrateur président du conseil d'administration, alors qu'à l'Office congolais des contrôles OCC, c'est Hassan Yengula qui occupe le poste de directeur général et la Société congolaise industrielle et de raffinage, SOCIR en sigle, sera conduite par Philippe Maele Lioki. Toutes ces personnes arrivent dans ces entreprises pour relever plusieurs défis auxquels font face les employés au quotidien. À la SCPT, par exemple, les mandataires héritent d'une entreprise qui totalise plus de 80 mois d'arriérés des salaires de ses agents. Une situation pas très catastrophique si on y met la volonté pour la résoudre, estime Jean Makayanga, vice-président du syndicat Solidarité, l'un des syndicats représentatifs de la SCPT. Selon ce syndicaliste, rien qu'avec les 5 millions de dollars américains perçus mensuellement sur l'exploitation de la fibre optique, beaucoup de problèmes de l'entreprise pourront être résolus. Quant à la Société commerciale des transports et des ports que dirige désormais Kimbembe Mazunga, la délégation syndicale affirme que les outils de travail et les infrastructures posent problème. Il y a aussi les grèves répétitives de ses agents. Seule l'orthodoxie dans sa gestion, affirme-t-on dans les milieux syndicaux, pourra bien sauver sa peau. Congo Airways, de son côté, est une nouvelle compagnie d'aviation congolaise et n'est pas confrontée à ces difficultés, mais plutôt aux différentes licences d'exploitation et aux charrois aéronautiques appropriés pour lancer ses services. Il faut noter que toutes ces entreprises citées, sauf bien sûr Congo Airways, ont été transformées en sociétés commerciales et malgré cette transformation, bon nombre d'experts estiment que ces entreprises ont toujours les mêmes défis à relever.
Merci Berry. Franklin Lutchaka, Franklin Tshamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Quelle est votre lecture par rapport à toutes ces nominations?
Bon, merci pour l'invitation, madame. Je suis par ailleurs un mandataire de l'État honoraire sur la période 2004 à 2009. J'ai assumé le fonction d'administrateur directeur financier de la régie de voies fluviales. C'est sous notre mandat que la réforme des entreprises du portefeuille a été engagée par le gouvernement de l'époque avec l'appui de la Banque mondiale. Et je voudrais anticiper en disant que je figure au nombre des citoyens congolais qui ont été promis par les chefs de l'État dans les cadres des mises en place qui ont été opérées par son autorité la semaine dernière. Donc voilà les précisions que je voulais donner avant d'aborder essentiellement la question en vous disant que la question de nos entreprises dites du portefeuille de l'État, c'est une question complexe, une question très complexe. Et lorsque la réforme a été menée, a été en fait engagée déjà dans les années 2003 par les copyrep sous le gouvernement 1 plus 4, elle était d'autant plus que complexe parce que divers facteurs s'est conjugué dans la situation des sinistres dans laquelle la plupart d'entre elles se sont retrouvées à l'époque. Il fallait donc engager tout politique qui prenne en compte tous ces facteurs-là. Ça n'a pas été facile, compte tenu du fait que la Banque mondiale, qui offrait son appui à la conduite de cette réforme à l'époque, avait ses objectifs. Le gouvernement avait ses objectifs. Il fallait donc un modus vivendi a été trouvé au travers les cahiers des charges qui a été confié au COPIREP, c'est-à-dire les comités de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Alors, à l'époque, un certain nombre de lois ont été prises pour faciliter, en fait, la conduite de la réforme. Il s'agit notamment de la loi portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques, la loi portant disposition générale relative au désengagement de l'État dans les entreprises de portefeuille, la loi portant disposition générale applicable aux établissements publics, et la loi qui fixe les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État dans les contextes actuels. Et donc, voilà donc le cadre juridique qui a été mis en place pour faciliter la conduite de cette réforme. Maintenant, 10 ans ou 12 ans après, ou 15 ans après la mise en œuvre de cette politique de réforme.
Est-ce qu'elle a réussi cette réforme?
Oui, qu'est-ce que nous apprécions cette réforme? Il faut dire que la réforme bat de l'aile. Elle bat de l'aile pour diverses raisons. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais globalement, voici donc le gouvernement qui est propriétaire de toutes les entreprises et qui évalue cette réforme, qui a trouvé mieux qu'en ce moment, que le moment venu, et le moment était venu de pouvoir opérer un réaménagement, une nouvelle mise en place à la tête des entreprises, parce qu'en fait, le gouvernement, me semble-t-il, s'est rendu compte que les objectifs vers lesquels il faut aller n'étaient pas rationnellement atteints, optimalement atteints, globalement.
Et les mises en place
tenant compte de ces éléments-là, les personnes dont les noms ont été cités ont été donc désignées en tenant compte de cet élément-là, et maintenant on va devoir y aller de nouveau.
Est-ce qu'on pense qu'avec des nouvelles personnes à la tête de ces entreprises, cela pourra faire changer les choses?
Et c'est en fait l'espoir que fonde le gouvernement en ce moment. Il faut dire que ces personnes, à elles seules, sont un appui formel du gouvernement. Et le cadrage de cette politique de réforme, sans ces deux éléments, je pense que nous allons tourner de nouveau en rond, parce que j'en sais quelque chose. Vous savez, il y a les entreprises qui ont continué à garder le train de vie, le train de vie des mandataires de l'État, qui était leur, il y a 20 ans, alors que les entreprises ont perdu beaucoup d'éléments de leur actif. Et donc, il est normal de faire des ajustements dans tous ces paramètres pour permettre aux entreprises de sortir effectivement du tourbillon dans lequel elles se sont engagées.
Alors, beaucoup de questions que se posent les auditeurs, c'est toujours les mêmes personnes qui sont nommées à gauche, à droite, les mêmes noms qui reviennent. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres compétences en RDC?
Les nominations dans ces entreprises relèvent de la discrétion du chef de l'État. Vous parlez des mêmes noms qui reviennent, je ne sais pas lesquels. Lorsque j'observe j'observe les noms qui ont été nommés, notamment à la SETP, la Société Commerciale Transport et des Ports, vous avez retrouvé un nom de quelqu'un qui a été, qui revient? Je ne pense pas. Et donc, n'exagérons pas, c'est des questions du point de vue légal qui relèvent de la discrétion du chef de l'État. Évidemment, au vu des dossiers personnels des concernés. Vous comprenez? Parce que quand vous lisez les ordonnances, il y a les vu les dossiers personnels déconcernés. Et donc, ce sont ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. Mais non, est-ce que la seule nomination de ces personnes nous garantit la bonne fin ou la bonne conduite de la réforme jusqu'à son bout? Je dis Là, non, il faut, alors que le gouvernement propriétaire de l'entreprise, jusqu'à la date d'aujourd'hui, y mette encore un peu plus d'engagement pour permettre d'aller à bonne fin de cette réforme.
Merci, Franklin Tchamala. Monsieur Mutombo Sonsola, membre de la direction politique du Congrès des démocrates pour le progrès social, CDPS, un parti politique de l'opposition. Quel est votre point de vue, votre analyse par rapport à ces nominations dans certaines entreprises de l'État, entre autres l'OCPT, l'ONATRA? Ce sont les anciennes appellations.
Nous avons appris la nomination de ces nouveaux responsables à la tête de ces entreprises ou de ces établissements publics. Que dire de ça? Nous avons appris les noms de ceux qui sont nommés. On ne nous a pas dit pourquoi ceux qui étaient là ont été débarqués. Nous ignorons les raisons pour lesquelles ceux-là qui étaient là, qui étaient nommés aussi au vu de leur dossier, ont été débarqués. On aurait pu nous dire que c'est pour telle ou telle raison qu'ils ont été déchargés de leur mandat. Ça n'a pas été dit. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, M. Tchamala a bien rappelé les textes qui régissent aujourd'hui les entreprises du portefeuille et les établissements publics. J'ai sous les yeux la loi qu'il a citée, la loi portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques. Cette loi avait deux objectifs. L'exposé des motifs de cette loi dit ceci, en deux mots. Elle a pour objectif de créer un cadre institutionnel susceptible de insuffler une dynamique nouvelle aux entreprises du portefeuille de l'État en vue d'améliorer leur potentiel de production et de rentabilité. Deuxième objectif, contribuer au renforcement de la compétitivité de ces entreprises et de l'ensemble de l'économie nationale. Entendre ce que M. Tchamala a dit, ces entreprises, ces établissements publics battent de l'aile. Se dire que la réforme n'a pas réussi. Et pourquoi est-ce que la réforme n'a pas réussi? Cette question, il revient au gouvernement d'y répondre. Parce que c'est lui qui supervise, qui gère les entreprises publiques. Aujourd'hui, dans beaucoup de ces entreprises, dans beaucoup de ces établissements publics, il y a des agents qui sont impayés depuis plusieurs mois dans plusieurs de ces entreprises publiques. Et pourquoi? C'est dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La nomination des personnes comme telles ne résout pas le problème. Je crois que nous devons tenir compte de tout ce qui est produit comme texte et veiller à l'application de ces textes. J'ai sous les yeux le décret loi du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Ce code de conduite insiste sur deux choses. Il insiste sur la compétence professionnelle et sur l'éthique professionnelle de l'agent public de l'État. Je suppose que lorsque on procède à la nomination des mandataires de l'État dans les entreprises, on doit tenir compte de ces deux choses. Et durant l'exercice de leur mandat, on doit y veiller. Si la compétence professionnelle n'y est pas, si l'éthique professionnelle n'est pas respectée, eh bien, il faut prendre les dispositions, les mesures qui s'imposent.
Alors, M. Mutombo, vous dites que le changement des personnes à la tête des entreprises, de ces entreprises, ne va pas résoudre le problème. Donc, si je vous comprends bien, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un autre problème qui n'aide pas ces entreprises à pouvoir se relever.
Je dis, le changement d'homme n'est pas en soi une solution. Il faut que ces hommes fassent ce qu'ils doivent faire. Il faut que ces hommes soient suivis par leur tutelle pour s'assurer qu'ils font le travail pour lequel ils ont été nommés. Si ceux qui viennent d'être déchargés de leur mandat l'ont été en application des dispositions légales ou réglementaires qui existent, alors là, je dirais oui, on a agi en conséquence. Parce que lorsque nous regardons les textes qui concernent l'administration et la gestion du portefeuille de l'État, la loi dit, la loi énumère les conditions pour mettre fin à leur mandat. Le mandat peut arriver à son terme normalement. Là, il n'y a pas de problème. Le mandat peut prendre fin pour d'autres raisons, pour incompétence par exemple. Mais dans le cas présent, nous ne savons pas ce qui est à la base de la fin de ces mandats. Alors, puis-je dire aujourd'hui que ceux qui étaient là étaient incapables pour faire, pour exercer les mandats qui leur ont été confiés, et que ceux qui arrivent aujourd'hui sont capables? Je ne suis pas même de le dire. Mais la tutelle doit être à même de dire pourquoi ceux qui sont partis, et ceux qui arrivent inspirent confiance.
Merci Monsieur Mutombo Israël Moutala, journaliste, analyste politique et économique. Que vous inspire, qu'est-ce que ces nominations, que pensez-vous de toutes ces nominations au sein des entreprises de l'État, certaines entreprises de l'État?
Merci de la question. Moi, je remarque au moins une chose, c'est que il y a absence totale d'une ligne directrice, d'une politique publique assumée, visible et lisible quant à l'avenir des entreprises publiques. Vous avez des nominations qui tombent au compte-gouttes, qui tombent tantôt pour les entreprises du secteur du transport, tantôt pour les entreprises du secteur de services. Bref, il n'y a aucune lisibilité. Il y a plusieurs entreprises publiques qui ont à leur tête des mandataires dont les mandats étaient épuisés. Il y a certains organismes dans les secteurs des établissements ou des entreprises publiques qui avaient des mandats de 5 ans renouvelables une fois. Plusieurs sont au terme de leur mandat depuis plusieurs années. Ils n'ont jamais été relevés de leurs fonctions. Ils n'ont jamais été remplacés. Pourtant, ils sont en fin de mandat. Alors, ça fait désordre. Ça fait vraiment désordre. Quand j'en crois au discours de Mabunda, l'ex-ministre du portefeuille, quand j'en crois à tout ce qu'on a produit comme discours par les copyrep, aujourd'hui, on n'aurait pas des entreprises qui demeurent toujours des canards boiteux. Et c'est là la situation des entreprises publiques. Malgré les multiples nominations qu'il y a eu à leur tête, elles sont toujours des canards boiteux.
La réforme a échoué. C'est un échec.
La réforme a totalement échoué. Parce que même la façon dont les nominations interviennent par ordonnance, je ne pense pas que quand nous lisons la nouvelle loi, qu'il faudra absolument, d'abord ce sont les conseils, ce sont des nominations qui doivent être faites par le conseil d'administration, qui doivent présenter les mandataires, dans les assemblées ordinaires. Et bref, même la procédure de nomination, elle pose un peu problème avec les transformations qu'il y a eu après. Alors, je remarque tout simplement aussi qu'on ne peut pas dire qu'un ministre est responsable d'un département ministériel, par exemple le ministre du Transport ou le ministre du Commerce extérieur, ou n'importe quel autre ministre, mais je ne vois pas dans ces nominations la main d'un ministre. Non, ce sont des nominations, comme l'a dit M. Franklin, discrétionnaires au chef de l'État. Non, la gouvernance moderne veut que, pour les décisions les plus importantes, que ce soit l'organe collégial qui est le gouvernement qui en discute. Ça veut dire que les ministres sectoriels, en fonction de la politique qu'ils veulent insuffler, fassent des propositions au Conseil des ministres, lesquelles propositions doivent être avalisées, discutées et puis soumises au chef de l'État pour une décision. Bien sûr, le chef de l'État a un mot à dire pour dire que j'aimerais telle orientation. Bref, mais ça doit être une discussion. Mais la façon dont les nominations tombent, j'ai posé quelques questions à quelques conseils de ministres. Les ministres sectoriels n'ont pas été consultés. Donc, ils ont appris comme tout le monde à la radio que dans leur secteur, telle personne, telle conseil. Bref, ils n'ont pas été consultés. Et donc, il y a un dysfonctionnement de nos institutions. Il y a un autre problème, c'est l'équilibre politique. Ça veut dire que j'ai parlé avec d'autres cadres de partie de la majorité. Ils disent, bref, ça n'obéit plus justement à une clé de répartition qu'il y a entre justement les membres de la majorité. Ils étaient justement, ils avaient mis une clé de répartition, comme il y en a au gouvernement, il y en avait aussi pour les entreprises publiques, qui a tel poste et tout ça. Mais tout ça semble être chamboulé parce qu'il n'y a que la décision d'un camp ou d'un parti politique qui l'emporte sur les autres composantes. Voilà, il y a des frustrations en termes d'abord des prérogatives des ministres du gouvernement qui sont empiétées. Il y a des frustrations en termes justement de partenaires politiques qui se disent ne pas être consultés pour de telles décisions importantes. Voilà, avant, quand il y avait eu le gouvernement Gizenga et le gouvernement Mouzito, toutes les nominations faisaient l'objet d'un dosage entre les différentes forces qui voilà. Mais alors, tout ça n'est plus pris en compte. Et donc, voilà pour moi un peu l'idée générale qui ressort de ces nominations. Il n'y a aucune lisibilité, aucune politique cohérente, où on sait, voilà, nous sommes à tel point, on va insouffler un nouveau vent, on va prendre de nouveaux mandataires pour tel résultat, pour tel objectif. On a fait signer par le passé des contrats de performance que personne n'a évalué. On a révoqué des mandataires, soi-disant, pour détournement, aucune sanction judiciaire ne s'en est suivie. Bref, nous sommes dans la complaisance. Jusque-là, ces nominations qui viennent, elles vont justement compléter d'autres nominations, mais sans justement apporter quelque chose de neuf. Bien que je pense par ailleurs qu'il y a des personnes de qualité qui figurent dans ces nominations, mais qui jouent des rôles mineurs. Et donc voilà, je vois par exemple dans cette nomination l'ambassadeur Atundu. C'est une personnalité de grande qualité, personne ne le nie, mais il n'est qu'administrateur. Bon, une personne qui a des compétences comme les tiennes, bon, on aurait voulu au moins qu'il soit dans le comité de gestion pour essayer de faire avancer vite les choses. Mais bon, là aussi, certaines personnes qui ont plus de qualité que d'autres jouent des rôles mineurs, alors que d'autres qui ont moins de qualité jouent les rôles de premier plan. C'est terrible.
Merci Israël Moutala. Conclin Tiamal, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia, dans la province orientale.
Kassamba Wanango, à partir de Bounia, chef-lieu de la nouvelle province de l'Ituri en voie d'installation. Ces nominations ne sont que, comme toujours, une prime aux bons militants de la majorité présidentielle. Et ne changeront rien, car ceci revient à remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul.
Franck Chama, la réaction, c'est juste des récompenses aux bons militants de la majorité présidentielle.
Mais je ne sais pas, mais madame, ça me fait rire. Vous savez, nous venons de loin dans la gestion de notre portefeuille, hein. Nous venons de très très loin. D'aucuns oublient l'époque où, pour accéder aux fonctions importantes, y compris des gestions au sein des entreprises du portefeuille, il fallait avoir une compétence, notamment celle des danseurs. Il fallait avoir trémoussé ses hanches suffisamment de voix devant les guides éclairés pour se faire désigner mandataire dans cette entreprise-là. La descente aux affaires de ces entreprises commence à cette époque où, en fait, des compétences, les mandataires devaient être d'abord des bons animateurs politiques du guide éclairé. Et donc, rappelez-vous, et donc, il ne faut pas avoir la mémoire courte, mais aussi nos politiques incohérentes. Il y a des entreprises qui ont été bel et bien créées par l'État à l'époque et qui ont souffert d'une sous-capitalisation. Rappelez-vous, il y a des entreprises pour lesquelles l'État, en fait, pour lesquelles les capitaux initiales évalués par l'État étaient évalués à 10 millions de dollars. Je prends le cas de la Sonas. Et il y a une entreprise pour laquelle l'État n'a libéré à sa création qu'un million de dollars. Donc cette entreprise a souffert pendant tout son fonctionnement, pendant plusieurs années, d'une sous-capitalisation. Aujourd'hui, il faut récapitaliser cette entreprise, au-delà du fait qu'il faut lui donner des bons managers, il faut la récapitaliser, mais pour la récapitaliser, il faut donc évaluer son patrimoine aujourd'hui, et pour voir jusqu'où ce capital-là est allé, et qu'est-ce qu'il faut lui apporter de nouveau. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte. Maintenant, on nous dit, on a pris des animateurs, la majorité, pour en remplacer par d'autres. Non, je pense que ceux qui peuvent apprécier exactement qui est quoi sont les agents qui sont placés sous notre commande. Aujourd'hui, quand vous allez dans les entreprises que nous avons eu l'occasion de diriger et que vous leur posez des questions, ils ont des avis à émettre sur nos profils. C'est important que nous sachions faire avec ces choses-là. Et j'ai entendu par ailleurs dire que...
Qu'il y a des ministres qui sont surpris. Ils ont appris ces nominations en même temps que le citoyen lambda.
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que la loi ne dit pas absolument que le ministre sectoriel doit initier quoi que ce soit. Voici ce que la loi dit. J'ai lu l'article 13 de la loi qui organise en ce moment la gestion du portefeuille de l'État. L'article 13 dit ceci, que le président de la République nomme un relève de leur fonction et le cas échéant, et révoque sur proposition du gouvernement, délibérant en conseil des ministres, les mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État. C'est là. Ça veut dire qu'il ne faut rien rajouter à la chose. Il n'est dit nulle part que les ministres sectoriels sont ceux qui initient. Il y a les portefeuilles de l'État qui est la centrale, qui gère les mandataires au quotidien. C'est par les portefeuilles que le recrutement généralement se fait, parce que le portefeuille de l'État dispose du CSP qui a la banque des données de nos entreprises. C'est important. Mais non, on me dit par ailleurs, qu'on pense que ceci a été fait d'une manière arbitraire, sans que les audits n'aient été faits, sans que l'on sache qui a fait quoi. Non. Ceux qui ont géré les entreprises savent, et surtout les entreprises de l'État, savent que les audits sont réguliers dans nos entreprises. Les audits, les organes publics d'audit sont connus. Et les audits sont, et les rapports suivent toujours. Les rapports vont dans les temps généralement des conseillers, et parfois de requérir des sanctions dans les cas d'espèce. Si vous allez au CSP, c'est-à-dire au Conseil supérieur du portefeuille, vous allez trouver des audits qui ont été opérés dans ces différentes entreprises et qui orientent l'État propriétaire dans le sens des décisions à prendre.
Alors, ça, c'est important de savoir.
Donc, nous ne pouvons pas, de but en blanc, sur base des quelques informations lapidaires que nous avons ramassées, établir que ces choses-là se font comme si le pays n'était pas gouverné. Non, le pays est gouverné.
Monsieur
et ces
Chamala,
choses se font en conformité des lois du pays.
Monsieur Chamala, il y a une question importante qui a été soulevée ici par Monsieur Mutombo, qui demande, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ces autres mandataires ont été relevés de leurs fonctions. Pourquoi ça n'a pas été rendu public? On a juste dit, sont relevés de leurs fonctions, remplacés par d'autres. Pourquoi on ne donne pas les raisons pour lesquelles ils ont été relevés de leurs fonctions?
Madame, nous sommes le seul pays au monde où nous aimons les spectaculaires. Nous pensons que l'État doit se gérer sur la rue. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Ces mandataires-là, au regard de la loi, signent un contrat avec l'État à leur entrée en fonction qui détermine quelles sont leurs obligations et quels sont leurs droits vis-à-vis de l'État propriétaire et quels sont les cahiers des charges respectifs que l'État leur assigne. Et donc, du jour au lendemain, on nous dit non, il faut publier. Mais allez au portefeuille. Notre rôle comme politique est de nous documenter sur les questions qui touchent, n'est-ce pas, à la gouvernance de notre pays. Il faut aller au portefeuille pour poser des questions. Je vous ai dit que les rapports d'audit sont écrits, ils existent.
Merci, M. Chamala.
Le Conseil supérieur de portefeuille est celui qui diligente les audits régulièrement dans nos entreprises.
Merci, M. Chamala. M. Mutombo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kasai Occidental.
D'après un bidoya à partir de la ville de Kananga, ces nominations sont intervenues vraiment au moment opportun, car il faut toutefois apporter du temps nouveau dans les entreprises publiques qui leur rendent meilleur.
Ces nominations vont apporter du temps neuf pour ces entreprises qui sont presque, qui ont un problème de fonctionnement.
Je ne sais pas à partir de quoi M. Bidoya dit que ces nominations vont changer les choses. Du sang neuf, oui, mais qui vont apporter quoi?
Des nouvelles personnes qui vont venir avec des nouvelles stratégies pour relever toutes ces entreprises.
Eh bien, toute personne qui arrive était à même de relever le défi parce qu'elle est nouvellement arrivée à la tête d'une entreprise. Je crois que là, M. Bidoya est tout à fait à côté de la plaque. Il faut voir le profil des personnes. La personne répond-il aux critères pour gérer telle ou telle entreprise, pour siéger au conseil d'administration de telle ou telle entreprise? La personne qui arrive comme mandataire actif est-il capable d'assumer cette charge? Ou même comme mandataire non actif? C'est cela qu'il faut voir. Je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. M. Chamala a lu la loi que j'ai sous les yeux également, un extrait de la loi. Oui, il est vrai que le président de la République nomme. Mais le gouvernement, c'est un ensemble de personnes. Il y a le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et les vice-ministres. Pourquoi est-ce que nous avons tous ces départements qui existent au sein du gouvernement? On les responsabilise, on les spécialise. Chaque ministère s'occupe de tel ou tel secteur. Il suit particulièrement les entreprises de tel ou tel secteur. Même si le portefeuille centralise au niveau de l'administration du portefeuille de l'État, il y a une concertation qui doit exister entre ces différents ministères. Le président de la République ne doit pas nommer, sur simple présentation d'un texte, par le Premier ministre, et signer, dire que, parce que la loi me reconnaît le pouvoir de nommer, je suis dans le bon. Non, mais alors à quoi servent les ministres? Je crois que chaque ministre a quelque chose à apporter dans son secteur. C'est pour ça qu'ils sont chargés chacun d'un secteur précis. Ça, c'est très important. Monsieur Tamaledi, nous sommes le seul pays où l'on dit il faut mettre tout... Non! Nous suivons ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque dans une grande entreprise, dans une entreprise, les choses ne marchent pas, eh bien, on essaie de comprendre pourquoi. On met en cause d'abord le numéro 1 de l'entreprise. On examine pour savoir ce qu'il y a. Il renvoie, lui, il nous renvoie aux audits qui sont faits par le Conseil supérieur du portefeuille. Est-il sûr que les nominations qui viennent d'être faites sont fonction des résultats de ces audits? Ça, c'est ce qu'il dit, lui. Il parle du principe, mais il ne sait pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Moi, je crois.
Il est quand même de la majorité. On est créé, entre guillemets.
Il est de la majorité, et les entreprises ne sont pas une propriété de la majorité. Les entreprises publiques, les établissements publics, c'est un patrimoine national, ça appartient à la nation. Ce n'est pas parce qu'on est de la majorité, on est au pouvoir, qu'on doit oublier totalement ceux qui ne sont pas au pouvoir. Les capacités pour gérer ces entreprises se trouvent partout et il faut les chercher. Il faut les chercher là où elles se trouvent. C'est alors qu'on fera de bonnes choses. L'unité nationale, la cohésion nationale dont parle le président de la République doit tenir compte de tout cela. C'est comme ça, je pense qu'il faut voir les choses.
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit, c'est pour vous, M. Mutombo, qui nous écrit depuis Yaru, dans la province orientale, des nominations des postes de commandement dans des entreprises presque en faillite sont à prendre avec beaucoup de réserves, car il n'est pas aisé dans un pays comme le nôtre de reconstruire ou de relever ces entreprises sans moyens disponibles ni une bonne politique de travail.
Oui, il faut les recevoir avec beaucoup de réserves, mais... Je crois qu'il y a une chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Il y a eu beaucoup de programmes. Il y a des programmes de réhabilitation, de relance, avec soit l'appui de la Banque mondiale, soit avec l'appui d'autres pays amis. Mais ces programmes, à quoi servent-ils? Nous savons qu'il y a eu des faillances. On ne doit pas raisonner comme M. Tchamaledi en rappelant... en disant qu'à l'époque, les gens dansaient pour... non! Ça fait combien d'années que cette époque-là est révolue? Ça fait combien d'années? Faut-il continuer à se plaindre comme Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo? Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Non! Vous êtes tombé par terre parce que vous ne faisiez pas attention. On est là. Depuis plusieurs années, comment est-ce qu'on doit s'accrocher toujours à ce qui s'est passé il y a longtemps? On doit oublier et faire des choses nouvelles.
Merci, M. Mutombo. Israël Moutal, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Dungu, encore une fois dans la province orientale.
Crispin Alibou de Dungu, province orientale. Les difficultés de fonctionnement de ces services étatiques sont liés réellement aux problèmes d'hommes. Avons-nous tous cette condition? Mais alors, lesquels hommes s'agit-il? Est-ce le changement d'individus dont il faille ou bien d'un esprit environnemental politique, administratif et social méritant conversion radicale en RDC. À quoi serviront les bonnes graines d'individus dans un climat sociopolitique encore malsain?
Réaction, Israël.
Merci de la question. Je dirais que là, tu me replonges un peu dans mon travail de fin de cycle. Il y a quelques années, j'avais travaillé sur les entreprises publiques et la possibilité de les privatiser. On ne va pas faire le grand débat ici sur les entreprises publiques parce que d'autres ont échoué parce que, comme l'a dit M. Franklin Tchamala, il y avait une sous-capitalisation, mais rien n'empêchait justement au gouvernement, au régime actuel de tirer toutes les conséquences d'une sous-capitalisation. Parce que la plupart d'entre ces entreprises-là sont dans une faillite délictuelle. On vous a parlé tout à l'heure de l'OCPT, qui a 80 mois d'arriéré. C'est une faillite non déclarée, elle est devenue même une faillite délictuelle. Donc je peux aligner autant d'entreprises publiques qui ne méritent pas justement de fonctionner, elles méritent d'être liquidées carrément. Mais justement, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas conséquent avec nos propres lois. Alors, la question pour les entreprises, elle est à la fois systémique, elle est à la fois une question d'homme, parce que ça ne sert à rien justement de nommer des gens qui ont des compétences, mais si l'environnement dans lequel évoluent ces entreprises est un environnement pollué, notamment par la corruption ou par l'absence de sanctions, ça ne va servir à rien. Les entreprises, nous savons que telle entreprise publique ou telle autre est mise en contribution comme une caisse noire des partis politiques, c'est des pratiques que nous vivons dans ce pays. Et donc, il y a tout ça, il y a l'homme, il y a aussi le système. D'autres entreprises par le passé avaient péri ou avaient des problèmes à être rentables à cause de la mauvaise qualité du cadre macroéconomique. Bref, mais sur le cadre macroéconomique, on a fait des progrès et donc ça veut dire qu'ils ont quand même plus ou moins un environnement macroéconomique assez favorable et propice pour leur éclosion. Mais c'est un mix, voilà pourquoi je dis qu'il fallait une politique globale. Je vais rebondir sur les propos de M. Mutombo qui a dit tout à l'heure ici les compétences, il faut les chercher partout. Mais quand on ne sait pas à quelle heure, à quel moment, à quelle échéance le président va nommer, ça sort, boum, tout le monde est surpris. Bref, la démocratie a besoin de lisibilité. Il faut qu'on nous dise, que le gouvernement nous dise, voilà, nos entreprises sont dans un mauvais état. On aimerait les meilleurs Congolais à leur tête. Où sont-ils? Pour quels résultats? Il faut communiquer. Il ne faudrait pas que, comme dit François Kama, discrétionnaire au chef de l'État. Non, il faut quitter ces idées moyenâgeuses, caporalistes. Il faut être des hommes libres. S'assumer. Quand on demande un débat au sein du conseil du gouvernement, c'est parce que tous les ministres, avec leurs compétences, peuvent éclairer une question d'intérêt national. Que M. Franklin me dise au moins quel est le conseil de ministres au cours de quel conseil de ministres cette question de la nomination des mandataires a été discutée. Comme dit Mandon, le compte rendu et que ce compte rendu justement a été transmis au chef de l'État. Bref, je n'en vois pas. Je ne vois pas quand, à quel moment le conseil de ministres s'est réuni pour traiter cette question. Et donc, avec tout ça, on ne va pas s'en sortir.
Et comment on peut s'en sortir, Israël Moutala? Comment on peut faire pour relancer réellement ces entreprises de l'État?
La question, ça veut dire qu'il faudrait d'abord absolument, j'ai vu aussi que le copyright n'a pas beaucoup de pouvoir d'orientation en termes de conseil, mais c'est d'abord le rôle du copyright lui-même. En tant qu'organe conseil technique du gouvernement en matière d'entreprise publique, il a échoué. Parce que si je vois les premiers programmes du copyright, aujourd'hui, pas besoin d'être économiste pour savoir que la réforme a échoué. Parce qu'une réforme, quand on la commence, il y a une échéance au bout de laquelle on doit voir les fruits. Or, aujourd'hui, en termes de services fournis, en termes de biens fournis par les entreprises publiques, c'est catastrophique. Donc, les consommateurs que nous ne sommes pas satisfaits de la fourniture d'eau, nous ne sommes pas satisfaits de la fourniture de l'électricité, nous ne sommes pas satisfaits de notre société d'assurance parce qu'elle ne peut pas assurer efficacement. Nous ne sommes pas satisfaits de nos services de transport parce que chaque fois, il y a des bateaux qui chavirent par-ci, par-là. Bref, c'est un chaos général. Donc, ça fait plusieurs années que ça dure. Et M. Franklin Tchamala va chercher Mobutu pour expliquer ce désastre. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait une nouvelle gouvernance. Voilà pourquoi je disais, il faudrait qu'il y ait une vision globale de où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Je vais vous donner un exemple. Je suis tombé sur un audit d'une société, de PricewaterhouseCoopers, qui a fait un audit sur les différentes entreprises du secteur minier, qui a dit qu'il y avait doublons, qui n'avaient pas les moyens pour faire leur travail, qui a fait un audit sur le personnel n'avait pas le profil, il y a plus d'infirmiers dans le secteur minier que des ingénieurs dans tous les organismes, il y a des gens qui ont été engagés sans diplôme, bref, ils ont fait une étude formidable. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette étude, commandée par le gouvernement, appuyée par la Banque mondiale, n'a pas encore commencé à être exécutée. Donc, on n'est pas
sérieux. Alors, vous parlez des visions globales, ça veut dire quoi concrètement?
La vision globale, on connaît les maux dont souffrent nos entreprises publiques. Il y a plusieurs ouvrages là-dessus, on les a répertoriés, mauvaise gouvernance, pléthore, sous-capitalisation, pas d'infrastructure, pas de bâtiments, pas de capital. Bref, même la plupart d'entreprises publiques ici ne savent même pas évaluer leur propre patrimoine. Bref, il y a beaucoup de problèmes, on les connaît, les solutions sont connues. C'est une question de volonté politique, de courage politique.
Merci Israël Moutala. Il ne reste plus beaucoup de temps, Monsieur Tchamala. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour relancer réellement ces entreprises de l'État qui sont presque en faillite?
Madame, je suis étonné que les amis veuillent éluder les causes lointaines de notre déclin, du déclin du portefeuille de l'État. Je suis désolé parce qu'un bon diagnostic tient compte et des causes lointaines et des causes immédiates. Pas de diagnostic. Mais qui oublie que la SNCC a commencé à connaître ses difficultés avec l'époque où une certaine réforme qui était amorcée consistait à privatiser totalement son patrimoine pour au profit d'une société cisaraï, entre guillemets. Mais qui ignore notamment que une société comme Air Zaïre a vu ses avions vendus par les anciens gestionnaires? Qui ignore que dans ce pays, l'on a ça avec les bâtiments aujourd'hui, ITB Kokolo, qui sont réhabilités aujourd'hui? C'est depuis 1997 ou 96 que ces bâtiments étaient enfouis sous l'eau. Qui ignore notamment que la régie de voies maritimes a vu ses bateaux vendus par des dirigeants de l'époque?
Monsieur Tchamala, qui ignore?
Alors, parler de ces choses, c'est nous rappeler effectivement la cupidité maladive du Congolais qui nous a conduit où nous sommes.
Monsieur Tchamala, qu'est-ce qu'il faut pour relancer ces entreprises
immédiates pour avoir un diagnostic qui nous permet de faire une bonne thérapeutique? C'est important. Il ne faut pas éluder ces choses parce qu'on a eu cette nostalgie pour Mobutu. Non.
Merci. Est-ce que vous répondez maintenant à ma question? Qu'est-ce qu'il faut pour relancer ces entreprises, M. Tchamala?
Il nous faut beaucoup de discipline. Il faut beaucoup de discipline. Il faut du volontariat. Il faut des politiques publiques assez rationnelles et optimales qui puissent nous permettre effectivement d'aller vers les objectifs que nous nous sommes dessinés. N'oubliez pas que la réponse est un processus, il est inscrit dans les temps. Il prendra les temps qu'il prendra.
Merci M. Tchamala, c'est aussi votre conclusion. M. Mutombo, en guise de conclusion, quelles sont vos propositions pour que ces entreprises puissent se relever?
Il faut regarder les réalités en face. Chaque entreprise a ses problèmes. Monsieur Tchamala dit bien, nous avons le Conseil supérieur du portefeuille, nous avons le copyright, ce sont des instruments techniques. Ces instruments techniques ne sont-ils pas à même de sortir ce diagnostic? Et même si on dit qu'il y a des causes lointaines, comme il le dit, faut-il un siècle pour qu'on puisse redresser les entreprises publiques? Lorsqu'on pose le diagnostic, on connaît la cause et on sait ce qu'il faut appliquer comme mesure pour en sortir. Je crois que ça fait des années. Donc, les dispositions à prendre diffèrent d'une entreprise à l'autre. Mais il faut le faire. Il ne suffit pas de nommer des gens et de les laisser ne pas les suivre, ne pas suivre ce qu'ils font. Il faut les contrôler. Et en cours de mandat, il faut redresser ce qui ne va pas. Il faut sanctionner quand il faut sanctionner. Tout à l'heure, il a été dit que il y a des gens qui passent deux mandats, même plus, on ne dit rien, ils sont là. Ils sont là.
Merci.
Même s'il y a des erreurs commises, on les laisse continuer parce que majorité, comme il a été dit tout à l'heure.
Merci, M. Motobo. Je suis obligé de vous arrêter, Israël Moutala. Un mot en guise de conclusion.
Bon, en guise de conclusion, il n'est pas trop tard pour bien faire. Donc, il faut ces nominations, absolument. Il n'y a aucune ligne directrice qui sous-tend ces nominations. Et donc, pour moi, l'absence d'une ligne directrice va absolument consacrer l'échec de ces nominations.
Merci Israël Moutala, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Berry Franklin, Loutaka, sous la supervision de Ben Kabamba. Merci à Guy Manzangou qui était à la technique. Au micro, Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.